Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Nicolas Schaffner qui est Digital Platform Strategist au sein de KR Webmaker. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Donc on est ravi de t'avoir pour ce podcast, ça va être intéressant parce qu'on va parler aussi de la médiatisation, de l'acquisition et c'est un bon pendant de la création de contenu qui anime souvent ce podcast. Ouais. Tout d'abord Nicolas, je sais que tu viens d'Alsace évidemment comme ton nom l'indique, est-ce que tu peux nous parler de ta trajectoire avant d'arriver chez KR?
Ouais bien sûr, ravi d'être là, merci pour l'invitation. Ma trajectoire elle est un peu particulière dans le sens où j'ai pas fait le chemin école de commerce qu'on connaît beaucoup dans notre milieu. J'ai choisi de faire la faculté dès ma sortie de bac. Mmh. J'ai fait une licence culture et communication et c'est seulement en fin d'études dans mon master que je me suis spécialisé en communication numérique, communication digitale. Et j'ai eu la chance en master 2 d'être pris en stage de fin d'études chez KR. Et depuis, du coup, j'ai fait ma carrière chez KR. Ça fait 7 ans désormais que je suis chez eux.
Tu avais une appétence pour ce monde de l'acquisition du digital marketing. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu es tombé là-dedans finalement?
Vraiment, je ne vais pas mentir, c'est un peu le hasard. Ouais. J'ai pas d'appétence particulière. J'avais pas d'appétence pour le marketing. J'aimais beaucoup la publicité en général. Je pense à travers nos yeux d'enfant, quand on voit les pubs à la télé, on se dit c'est super, j'ai envie de voir comment
alors,
c'est les rouages derrière.
Les pubs Levi's, ouais, les transfers, les murs.
Je sais pas si tu te rappelles de la pub Petit Vittel. Y a que ta mère pour croire que c'est de l'eau. C'était ça la phrase, okay. Je crois, qui m'a beaucoup marqué. Et en plus, chez KR, j'ai rencontré la personne qui a joué petit la pub. Ça m'a beaucoup fait rire. Mais du coup, plus intéressé par la communication et surtout par le digital. Moi, je suis vraiment passionné par le digital, par les jeux vidéo, par le numérique dans son ensemble. La communication numérique, du coup, ça m'a vraiment attiré. Et lorsqu'on m'a parlé de faire des campagnes sur les réseaux sociaux, puisque c'est par là que j'ai commencé chez KR, je me suis dit pourquoi pas, je trouve ça intéressant et je suis resté à la fois pour l'ambiance d'agence, parce que je trouve que c'est les gens qui font notre expérience, qui font une agence.
Hein, c'est important.
En effet, si on est fan d'achat d'espace, on peut le faire un peu partout, on va pas se mentir, mais si on est fan des collègues avec qui on travaille, il vaut mieux rester là où on est. Et j'ai trouvé vraiment chaussure à mon pied chez KR avec une bienveillance, avec un management qui me plaît. Et j'ai eu la chance de bosser sur des comptes sur Dior, notamment sur des comptes LVMH pendant plusieurs années. Ce qui m'a formé et ce qui m'a permis aujourd'hui d'être, comme tu disais, digital platform stratégiste.
Voilà, avec déjà une belle longévité, puisque déjà cette année, quand même, au sein du groupe KR. Alors, quelques mots quand même sur KR et Webmaker. Tu peux en parler de la spécificité finalement de leur approche du digital média de comment ils sont structurés.
Alors, chez KR, du coup, on a rejoint. Donc, initialement, on était KR Média. On a rejoint Webmaker, le groupe Webmaker, il y a quelques années pour devenir KR Webmaker en fusionnant. Avec une autre entité. Et puis, notre approche, donc on est vraiment spécialisé dans l'achat d'espace. Chez nous, on ne fera pas de contenu. On est associé à d'autres agences pour ça. Soit c'est les clients qui ont leurs agences. On parlait notamment de Buzzman, pour ne citer que tout à l'heure.
Petite agence qui démarre.
Toute petite agence qu'on connaît très peu, bien sûr. Non, voilà, on bosse évidemment en collaboration.
Salut, hein, je ne pour pas que ma parole soit mal interprétée dans la confrérie de la communication. Salut, monsieur George. Non pas Clunet, mais shérif.
Je pourrais citer plein d'autres agences, mais voilà, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les marques à avoir leur meilleur dispositif média tout en s'appuyant sur des agences créa. Chez nous, on a également au sein de Groupe M l'agence Studio M qui nous permet aussi de créer du contenu pour nos marques. Mais chez KR, on est vraiment notre fer de notre spécialité, c'est vraiment l'achat d'espace sur tous les leviers digitaux et off, la télé aussi. Enfin voilà, on est vraiment ici pour accompagner au mieux nos clients.
Ok. Et d'ailleurs, KR, à la base, il me semble que c'était une agence française. Hein,
c'est une agence 100% française.
Tu te souviens des initiales?
Alors, c'est Kéroun et... Aïe, 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 là, tu me poses une colle. J'oublie toujours un des deux prénoms et je m'excuse vraiment auprès des fondateurs. Mais c'est en effet les initiales de Kéroun et le R, j'ai vraiment un
trou. On retrouvera, mais c'est pas grave, c'est pas grave.
Et en effet, bonne mémoire, c'est bien eux qui ont créé l'agence, je crois, dans les années 2000, si je ne me trompe pas. Puis c'est Jean-Philippe Berthaud qui a pris le lead en CEO pendant une dizaine d'années. Et aujourd'hui, c'est Rocco Senda et Julien Boyer qui ont été récemment nommés tous les deux présidents de l'agence.
D'accord. Alors, en quelques mots, une agence média, comment elle est structurée? Donc, il y a beaucoup d'account managers, il y a des stratégistes comme toi, il y a de la perf, du social media.
Exactement.
Quel style d'équipe tu as
là-dedans? On est siloté en expertise. Alors, chaque agence va se structurer différemment. Certains font des one team autour d'un client et mettent toutes les expertises. Chez nous, on a quelques cas comme ça, mais c'est surtout un silo par expertise. Donc, on va avoir l'équipe social et search, l'équipe multiscreen, l'équipe display programmatique. Chacun va avoir des portefeuilles de clients et c'est en fait les équipes, ce qu'on appelle les équipes conseil, qui vont chapeauter tout ça. Ils vont recevoir le brief, ils vont aller voir chaque expertise en leur disant bon, bah, on a reçu tel brief, qu'est-ce que tu pourrais me recommander sur ton levier. Ils vont consolider tout ça et puis on présente auprès du client, on voit si ça passe.
Valide,
exactement, reco, valide, mise en place
perf.
De la plateforme, bilan,
KPI
et recommandations, et on repart sur de nouvelles campagnes. Exactement.
Et par contre, la difficulté, c'est que souvent l'agence créa n'est pas tout le temps intégrée. Donc tu dois être en binôme, tu mentionnais Buzzman notamment, c'est-à-dire que souvent vous prenez le scope digital market et perf. Mais l'agence créa ou l'asset créa est créée d'une autre manière. Tu peux en parler parce que c'est une des difficultés.
C'est
parfois.
Une des difficultés. C'est, je pense que c'est une des plus grosses difficultés à surmonter. Merci. On y arrive de mieux en mieux, honnêtement. Dans mes débuts, c'était un peu la guerre entre les agences créa et les agences médias, surtout quand l'agence créa fait un peu de médias. C'est de bonne guerre, on ne va pas se mentir. Hein. On essaie tous de chercher un peu du budget à droite à gauche. Mais nous, on a toujours essayé de rester vraiment dans nos carcans, dans le sens où on est spécialisé en médias, vous êtes spécialisé en créa, travaillons main dans la main. C'est vraiment le message qu'on essaie de faire passer quand on travaille en binôme avec les agences créa. Et puis souvent, on travaille même en trinôme, j'ai envie de dire, le mot n'est pas vraiment français. Mais voilà, avec l'annonceur qui va chapeauter et puis l'agence créa, l'agence média, on essaie vraiment de travailler main dans la main pour que ça se passe au mieux. Puisque tu l'as dit, la créa est vraiment essentielle pour qu'une campagne fonctionne bien. C'est difficile d'adapter un plan média quand tout est déjà créé. C'est beaucoup plus simple de créer un plan média quand les créas ne sont pas encore développés et quand on peut vraiment donner nos inputs médias sur les créas. Je m'explique rapidement. Mettre en avant certains formats. Aujourd'hui, on le sait, le 9/16 sur TikTok, sur les réseaux sociaux, c'est ce qui marche le mieux, bien sûr. C'est sûr, si on arrive sur une campagne et qu'on nous dit on n'a que des assets 16/9, c'est des copies télé. Bon, un peu dommage pour faire des campagnes digitales. Du coup, ça va être de l'adaptation, ça va pas forcément être du très bon contenu. D'où l'intérêt de vraiment collaborer dès le début, dès les premières recommandations avec les agences créa.
Donc là, un grand appel qu'on va passer aux annonceurs, évidemment,
qui doivent aussi,
on le sait, progresser sur cette étape. Parce que c'est vrai qu'il y a un enjeu de cohérence qui est très important dans des campagnes et que parfois, quand des équipes sont distinctes, avec parfois des agences qui se tirent la bourre, ça peut créer des difficultés.
Exactement.
Et donc, c'est peut-être finalement avoir une approche plus collaborative de tout ça. Et assez transparente, parce que quand tu es en train de dire les fichiers sources, des machins, il faut jouer la transparence parce qu'il faut avoir tous les assets à dispo, etc.
C'est exactement ça. Le plus simple, c'est vraiment de mettre tout le monde autour de la table dès le brief et de ne pas commencer à briefer d'abord une des deux agences parce que ça va mettre un écart en fait dans la préparation des campagnes entre les deux agences. Et le mieux, c'est vraiment, comme je le disais, de travailler main dans la main pour avoir les campagnes les mieux réussies, que les assets collent aux dispositifs médias et pas qu'on adapte encore une fois les dispositifs médias aux assets, au contenu.
Tu trouves que les agences devraient être plus collaboratives? Parce que c'est vrai que le marché, il est quand même en tension. Le power, il est quand même, je sors un peu du podcast, mais le power est quand même chez l'annonceur. Et souvent, un petit peu, c'est une espèce de guéguerre entre les agences. Ça favorise pas forcément ce collaboratif qui pourtant va au succès de la marque.
Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est quelque chose qui favorise, par contre, ça pousse vers le haut, cette concurrence. Je pense qu'il ne faut pas qu'elle soit néfaste, il faut que ça reste une concurrence positive. Lorsqu'on doit se mettre autour de la table et travailler ensemble, oublions un peu nos différents, entre guillemets, différents. Il n'y a pas non plus... On est une grande famille, mine de rien, dans le marketing digital.
La finalité, c'est même pour le client final, parce que le gagnant à l'arrivée, ça doit quand même, cette marque qui doit amplifier au mieux.
Il faut que la campagne fonctionne le mieux pour tout le monde. Et tout le monde sera content, en fait, qu'on soit créa ou média. Si la campagne marche bien, derrière, tout le monde est content.
Je souscris au 55. Alors, c'est ce que m'avait dit, je vais le citer, tiens, Anas de chez Dailymotion, qui m'avait dit à l'époque, il faut qu'il y ait à peu près la moitié des efforts entre la création et les contenus ouais. et la médiatisation.
Ouais.
Tu souscris un peu à ce moite-moite.
Ouais, on souscrit un peu à ce moite-moite.
Qui n'est pas souvent dans la tradition, je trouve, française, parce que parfois...
Nous, on est plus 60-40, pour être honnête. 40, on est plus 60 médias, 40 contenus, c'est un peu ça notre split idéal. Après, si on se tend vers le 50-50, c'est aussi très bien, mais c'est vrai que de prime abord, nous, on pense qu'il faut mettre un peu plus de budget que de médias que de budget créa, tout simplement parce que l'amplification, c'est très, très intéressant. Et je reviens rapidement sur les frontières. J'ai rejoint récemment, il y a quelques mois, l'Alliance Digitale pour travailler sur la publicité dans le jeu vidéo. J'ai rejoint un groupe de travail à ce sujet. On est en train de créer un livre blanc. Je sors un peu du sujet du podcast, mais voilà, petite dédicace à l'équipe d'Alliance Digitale. Et justement, je trouve ça hyper intéressant d'oublier les barrières, parce que dans ce groupe, il y a des gens de Publicis, il y a des gens d'Avas, il y a des gens d'Ensu, il y a des gens de différentes régies. Mais on est ensemble pour travailler sur un seul sujet.
L'Alliance Digitale.
L'Alliance Digitale, IAB, Alliance Digitale, c'est vraiment l'association qui va IAB. Regrouper. D'accord. L'Alliance Digitale, c'est une fusion entre l'IAB et une autre
du mobile aussi, mobile. L'association du mobile association.
Qui a créé l'Alliance Digitale il y a de ça un an, je crois, ou deux. Et bref, quand je participe à ces réunions avec le groupe de travail, je trouve ça vraiment super d'oublier un peu. Ah, toi, t'es publiciste.
Oui, c'est Chapelle. On est juste dans un groupe de réflexion.
Exactement. On est là pour créer un livre blanc pour le marché, pour tout le marché. Très pas seulement pour sa paroisse. Et ça, je trouve ça hyper intéressant.
Parce que moi, souvent, je l'ai vécu. Désolé, je ressors un peu dans les anecdotes. C'est qu'à un moment, il y a un annonceur qui veut faire une OP, une prod. Ouais. Bon, bah, on met tout le paquet sur le film.
Ouais.
Et puis, à un moment, traditionnellement, ah bah non, on va pas mettre beaucoup de budget pour
C'est trop dommage. C'est trop dommage.
C'est du gâchis, parce que quand on sait l'énergie qu'il faut fournir, là je parle plus côté réal ou prod, je l'ai vécu en début d'année notamment, pour embarquer des 30 personnes dans une équipe technique, développer un script, tourner le film, le scénar, les allers-retours,
ouais,
etc.,
les
valides. Enfin, c'est clair qu'à un moment, on veut taper fort, donc là on remercie d'ailleurs les éditions Cana, parce qu'on avait pu faire quand même quasiment 1 million de vues, mais c'est vrai que... C'est pas toujours la tradition de provisionner ce budget en amont. Et parfois, les clients, les annonceurs sont finalement très contents de sortir leur film, un peu en mode, bon, bah oui, ça y est, on a fait notre film, on est content. Mais il manque le petit cliquet qui va permettre de... Comment tu l'expliques, ça? C'est que c'est un problème de budget provisionné en amont, quoi.
Je pense que c'est vraiment au cas par cas. On n'aura pas de règle générale pour tous les clients.
Ça dépend des moyens,
mais
évidemment.
Tu as soulevé un point. Le budget, forcément, est le nerf de la guerre. Si on met tout le budget dans la créa, je ne dis pas du tout que c'est le cas ici, hein. Il y aura peut-être moins de budget pour le pousser, mais c'est dommage, parce qu'en effet, si on développe quelque chose de super mais que personne ne le voit derrière, quel est le but, quel est l'intérêt final? Alors, le brand content, pour parler, je sais que c'est vraiment votre expertise et le podcast traite de ça, moi, ce n'est pas mon expertise, je ne vais pas vous mentir, mais pour moi, il y a deux approches. Je pense notamment, par exemple, au podcast qu'a créé Dior, le Dior Talk, il y a quelques années, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas sûr qu'il fasse beaucoup de médias dessus, mais peut-être pour le lancement en faire beaucoup et ensuite le continuer pour vraiment créer du brand content et pas juste faire une campagne pour faire une campagne. Mais l'idée, c'est à la fois d'associer du contenu qui reste dans le temps, qui fait une identité de marque concrète et pérenne, et en plus de pouvoir l'amplifier soit au début, soit par moment pour le rebooster un peu, etc. Mais je te rejoins tout à fait, c'est dommage de ne pas pousser des contenus qui prennent du temps, qui prennent du budget et qui sont là.
Après, là où tu as dit un point clé, ça dépend aussi de l'enjeu stratégique derrière. Est-ce que j'ai un coup de poing à faire dans
tout
les ventes
là,
ou pas?
Tout par-delà.
Et puis aussi de la taille de l'annonceur, parce que tout le monde n'est pas Dior ou LVMH.
Oui, bien sûr, j'ai pris un exemple.
Je ne sais pas si toi, tu vois aussi cette séparation du marché entre des grands aujourd'hui qui peuvent avoir des vrais moyens et des PME ou des boîtes un peu plus agiles. J'imagine que vous êtes sur les deux marchés.
J'ai moins la vision des PME, pour être honnête. On a quand même principalement des grands groupes et des grands comptes. Mais même dans les grands comptes, on peut voir des différences dans les investissements, des choix qui sont faits, surtout en ce moment. Hein, la période est compliquée, on est obligé de faire des choix. Et ce qu'on coupe en premier, c'est le marketing. Ce qu'on coupe en premier, souvent, c'est le social media ou la programmatique qui sont très faciles à couper, c'est normal. Et on va conserver les investissements qui sont plus long terme ou qui sont plus difficiles à stopper, tels que la télé, la presse, ce genre de choses. Mais nécessairement, il y a des choix à faire. Et tu l'as dit, tout part de l'objectif pour moi, que ce soit en contenu ou en média.
Oui.
Il faut définir vraiment bien en amont ce qu'on veut faire.
Est-ce qu'on est noto? Est-ce qu'on veut développer les ventes? Ça dépend de plein de paramètres quand même.
Exactement.
Super. Alors, on va bientôt arriver à la partie clé du podcast, parce que c'est pour ça que je voulais t'inviter aussi. C'est parce que le podcast, de plus en plus, il y a un côté un peu tuto. J'aime bien un peu inspirer les publics. Et comme tu es vraiment sur ce métier du plateforme stratégiste, Je voulais t'en parler. Avant qu'on y arrive, juste quelques exemples, si tu peux en parler, de marques que vous accompagnez, quelques exemples de clients.
En ce moment, oui, bien sûr, je peux en parler un peu. On accompagne notamment Total Energy, IKEA, AXA, Colgate, qui sont des clients du groupe Wavemaker. On a également le groupe Covea, qu'on accompagne depuis des années. Voilà, on a vraiment beaucoup de choses différentes.
Des belles marques, des belles enseignes.
Orange et Nash Webs aussi qui nous suivent, Burger King. Non, on a vraiment un beau portefeuille qui est étoffé. Et puis surtout, on continue, comme toutes les agences, d'essayer de trouver de nouveaux clients.
Tu fais les pitchs aussi, toi ?
Ça m'arrive, oui, de remonter sur certains pitchs.
Ouais. Le gros, c'est du courant où tu fais les pitchs, tu fais moite-moite entre les coûts et les affaires.
Ça va dépendre un petit peu des actus, des besoins. Moi aussi, de ma charge de travail, bien sûr, mais ça peut m'arriver de remonter sur certains pitchs. Étant donné que j'ai 5 ans d'expertise en social media, c'est sur ça que je suis interrogé la majorité du temps. Et aujourd'hui, j'essaye de me diversifier via mon poste, plus globalement marketing digital, et pas seulement une seule expertise.
Tous ces clients, ils vous prennent des scopes médias globaux ?
Ça va dépendre. C'est un peu au cas par cas. Le digital, parfois, est internalisé. Ça se fait de plus en plus, surtout en perf. On parle un peu d'acquisition depuis le début du podcast, mais... Il y a certains acteurs qui souhaitent internaliser parce que c'est plus réactif, parce qu'ils ont le contrôle de tous les assets. Il y a des choses qui se passent dans ce sens. On va dire que chez KR, on a 80% de branding, 70% de branding et 30% de perf. Ce n'est pas notre spécialité. On a des agences dans le groupe qui sont vraiment spécialisées. Je pense à Kayad notamment.
Quand tu es dans le branding, tu mets quel type de prestation ?
Ça va être des campagnes vraiment plus d'affichage, même des campagnes de social media, mais optimisées à la notoriété. Mais le scope, en effet, va varier. Pour revenir à ta question, selon les clients, selon leurs besoins, certains on n'a que la télé, certains on va avoir tous les leviers d'acquisition. Voilà, ça dépend de eux ce qu'ils font déjà avant de nous rejoindre ou de leur évolution.
Donc un travail assez étroit avec les régies aussi et les médias pour optimiser.
Des relations privilégiées avec les régies pour avoir les meilleurs deals, pour avoir les infos dès qu'elles sont dispo, pour rejoindre des bêtas, pour certains annonceurs. Non, c'est vraiment ça, c'est la force aussi d'être dans un groupe assez conséquent. Non pas, je veux pas manquer de respect aux agences indépendantes, bien au contraire.
Mais ça
ouvre des portes forcément avec certaines régies, d'avoir des infos aussi rapidement pour nos clients, pour les accompagner au mieux.
Et donc toi, tu es spécifiquement sur social ou tu es aussi sur la perf d'un point de vue plus global ?
Aujourd'hui, je suis vraiment sur le digital, le marketing digital au global, tout ce qui va être plateforme d'activation en libre service, d'où le titre de mon job. Mais j'ai une appétence pour social parce que j'ai été dans l'équipe pendant 5 ans, j'ai été manager dans l'équipe, j'ai vraiment fait mes armes sur le marketing digital via le social media.
Et aujourd'hui, invité régulièrement par Facebook, Twitter et autres, TikTok, Instagram.
Tout à fait.
Dans les fêtes des GAFA.
Exactement.
Alors on va aller sur la perf justement, qui est le point clé de ce podcast, qui est évidemment l'acquisition, le digital marketing, les enjeux, le paid versus l'organique. Ouais. Est-ce que tu peux nous un peu, j'appellerai pour les nuls, pour les auditeurs, nous dire ta définition, toi, tout ce qui est perf et acquisition, et puis finalement les enjeux que tu vois et comment tu décris tout ça.
La perf, l'acquisition, j'ai envie de dire c'est le nerf de la guerre, oui et non. Il n'y a pas de perf sans notoriété, il n'y a pas d'acquisition sans haut de funnel. On va en parler de funnel.
Le fameux funnel
de conversion.
Et non pas le funnel de 5 points. Très belle blague.
Wow.
Pardon, là je me lâche, je sors de c'est un petit... Donc funnel d'acquisition évidemment pour les auditeurs.
Milieu de funnel, bas de funnel.
Donc c'est donc les leads, c'est la génération des ventes, c'est le développement du chiffre. C'est
réussir à identifier chaque touch point, que ce soit... un spot télé par exemple qui va éveiller entre guillemets la conscience des potentiels consommateurs, des potentiels clients, et puis ensuite une fois qu'on les a touchés en télé, peut-être faire des orchestrations pour aller les retoucher, je ne sais pas, en social media, avoir vraiment en fait un 360 pour avoir en bas de funnel, et du coup ce qui va nous intéresser aujourd'hui en performance, des formats vraiment dédiés à la performance, des ciblages dédiés aussi pour réussir à avoir le meilleur ROI. On en revient toujours à ça.
Le ROI final étant le nombre d'acheteurs potentiels.
Le ROI final
il est dur à identifier, celui-là.
Étant au-delà du nombre d'acheteurs, étant le
CA généré.
Le CA généré par rapport à ton budget dépensé.
l'idée de positif. C'est la vision PDG entreprise. Exactement. Après, c'est plus difficile dans la réalité.
Ouais, mais c'est ça qu'on va regarder en perf. C'est vraiment ça
qu'on va
regarder.
Parce que les annonceurs, en vrai, communiquent pas tout le temps sur les ventes. C'est quand même le point qui est très difficile à sortir.
En grand public, oui, c'est clair.
Même
que
quand tu fais une campagne, c'est très rare que tu saches, OK, j'ai vendu X.
Alors,
t'as un peu l'info.
En digital, on a les infos maintenant. Tout est bien traqué, même si... Pour le moment, tout est bien traqué. On peut parler de la fin des cookies qui se fait entendre de plus en plus. C'est Google qui est censé arrêter les cookies l'année prochaine. Tout le monde est en train, toutes les régies digitales essaient de trouver des parades pour continuer à mesurer justement ces ventes. Parce que c'est, je vais le redire, le nerf de la guerre, ça va être la mesure des ventes. Mmh. C'est savoir combien de ventes j'ai réussi à faire via ma campagne Google, combien de ventes j'ai réussi à faire via ma campagne Facebook. Donc le digital a cette force de pouvoir tout mesurer. Pratiquement tout, que ce soit les ajouts au panier, le CA, les conversions, le nombre de personnes touchées, les clics, vraiment tout ce qu'on peut mesurer, tout ce qu'on veut mesurer, on peut quasiment le faire. Ce qui n'était pas le cas, ce qui n'est pas le cas en télé, ce qui n'est pas le cas en presse. C'est vrai que les médias offline, c'est plus compliqué de savoir.
C'est plus facile quand tu es un e-commerce d'ailleurs, que si ton client est e-commerce,
oui.
C'est beaucoup plus facile
de vendre
cette
en ligne, clairement. Ah oui, clairement.
Que si tu es un acteur physique de vente.
Aujourd'hui, il y a des leviers, il y a des solutions qui existent pour mesurer même en offline tes ventes, mais ça passe par des organisations assez complexes quand même, assez lourdes. Par exemple, uploader toutes tes ventes de la journée pour qu'elles soient ensuite comparées avec les personnes que tu as touchées sur une campagne en ligne parce que tu n'es pas un site e-commerce. Donc, il faut que tu essayes de retrouver, de recroiser si les personnes que tu as touchées sur Facebook, par exemple, sont allées dans ton magasin et ont converti en magasin. Mais c'est beaucoup plus compliqué à mesurer que si c'était une marque e-commerce qui est 100% en ligne et sur laquelle, oui, là, tu peux tout mesurer.
Alors, prenons des cas concrets. Donc, mettons, moi, je suis une marque, je veux lancer, j'ai un e-commerce, lance une marque de basket, j'ai un peu de moyens, je viens des États-Unis, j'ai fait une grosse levée de fonds.
Magnifique parcours,
je viens de la tech et tout ça, puis je cherche une agence, tiens KR, on m'a parlé d'eux, ils sont pas mal.
Okay.
Donc en gros, les étapes c'est quoi? Donc étape 1, le public visé et l'objectif de vente,
c'est
est-ce
vraiment...
qu'il y a une campagne ou du récurrent déjà?
Exactement, est-ce qu'on est sur une campagne annuelle, est-ce qu'on est sur un fil rouge, est-ce qu'on est vraiment sur un push produit pour une solde? Là on parle de lancement notamment, donc on est plutôt sur pas un one shot, mais on va faire quelque chose pour lancer,
donc
pour vraiment faire
parler. Donc tu crois
au temps
fort, il faut déjà un gros temps fort.
Je crois vraiment au temps fort.
Combien de temps un gros lancement?
Moi je dirais,
mois,
on parle
semaines.
De 2 à 3 semaines minimum pour moi. Après ça va dépendre des phasing, des assets à dispo, bien sûr, tout est adaptable, mais pour moi une bonne campagne ça reste un minimum de 3 semaines quand même pour bien faire de la répétition. Et par contre en performance on va peut-être plutôt avoir une approche fil rouge avec des ciblages de retargeting, des choses en fait pour aller toucher des prospects chauds. Je pense que ça parle à pas mal d'auditeurs d'aller chercher en fait les personnes, on revient sur le funnel, qui sont proches d'acheter. Donc ça va être des visiteurs, ça va être des personnes qui ont déjà regardé nos campagnes, peut-être des bas CRM pour certains clients s'ils peuvent les utiliser. Donc imaginons là c'est un lancement, il y a un peu tout à créer. Nous on va recommander un dispositif média pour vraiment faire connaître d'abord la marque et ensuite au bout des 3 semaines par exemple peut-être commencer à faire des choses vraiment plus axées performance quand on aura déjà bien lancé la marque et fait de la noto, fait du reach pour pouvoir un peu exploiter ce reach qu'on aura créé.
Donc ça veut dire que tu prends dans le mix vraiment marketing, donc tu parles de notoriété, ça veut dire qu'au début c'est peut-être plus un film, une campagne YouTube, social media par exemple,
ou alors même des, tu vois, ça peut être des lancements, on peut prendre l'exemple d'un lancement d'un film, je sais pas si tu es un utilisateur de Twitter, mais on peut avoir des formats premium où on va avoir pendant un jour un hashtag sponsorisé et du coup pendant une journée le lancement il est quand même assez fort puisque pendant une journée sur Twitter tous les utilisateurs vont voir ce hashtag sponsorisé.
Et ça, c'est souvent un basique. Quoi. La campagne film digitale qui couple du YouTube et du social media, c'est
ça,
quand
c'est
même
plutôt
un des grands basiques
du
lancement.
C'est un peu un béaba, entre guillemets. Ce qui est très chouette aujourd'hui, je trouve, avec l'époque qu'on a, avec toutes les possibilités qu'on a, en fait. On remonte il y a 30-40 ans, les possibilités en marketing c'était quand même un peu plus limité, il n'y avait pas internet déjà, c'était beaucoup moins développé. Et aujourd'hui ce que j'apprécie c'est que j'ai envie de dire un peu peu importe ton budget, on a des exemples de campagnes qui ont magnifiquement bien marché, que ce soit filmé avec un iPhone ou avec une caméra de ciné, que ce soit une campagne organique qui a eu un petit coup de boost ou qui a pris un buzz. Bon, alors le buzz n'est pas anticipable, donc il faut avoir un peu de chance bien sûr, mais c'est ça que j'aime aujourd'hui dans le marketing, c'est que même quand on a un peu moins de budget, en tout cas moins que des grandes boîtes, on peut être créatif et essayer de faire des dispositifs qui vont
Par contre, il faut quand même les bons contenus en amont. Il y a quand même
c'est toujours bien d'avoir des bons contenus et en tout cas, d'avoir des contenus qui font du sens, qui véhiculent aussi une bonne image de marque, qui véhiculent les vraies valeurs de la marque. Pour moi, ça, c'est un équilibre qui est difficile à trouver. Ça,
par contre, le paid est devenu de plus en plus important parce que comme les algorithmes et les réseaux
sociaux... Si on parle des réseaux, vraiment exclusivement des réseaux, en effet,
cash ton, on
tout pousse pour qu'on paye, pour que les gens mettent de l'argent.
Ça revienne à Palo Alto.
C'est un peu ça, malheureusement. Mais voilà, pour tout pousse à payer pour avoir de la visibilité. C'est un peu, ouais, c'est un peu comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux et c'est comme ça qu'ils permettent aussi de rester gratuits via la publicité. Mais ouais, je trouve ça hyper intéressant aujourd'hui d'avoir cette pluralité de contenu, cette pluralité de possibilités surtout. Aujourd'hui, je peux activer tactiquement du TikTok, puis mettre un peu de télé en complémentarité, ou bien alors je vais faire, je sais pas, selon ma cible, plutôt m'orienter sur de la presse et du Pinterest. En fait, les possibilités sont quasi infinies. Ça dépend de nous, ce qu'on a envie de faire. Enfin, quand je dis nous, c'est tous les acteurs, hein, annonceurs, agences du milieu. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses possibles.
Donc, je reprends le case. Hein, parce que
oui, pardon.
Là, moi, n'oublions pas le business. Moi, je viens de la Silicon Valley. Je dois te confier mon budget. Donc, je suis content de te confier quand même $1 million de budget. J'aimerais quand même savoir comment tu vas répartir ce budget. Donc, est-ce qu'il va y avoir un petit 30% sur ta campagne de notoriété au départ? Ensuite, comment tu vas me faire entre SEO, SIA, programmatique et social ads, cher Nicolas?
Ouais, bah là, on est en plein exercice. Je te prends un exercice.
Brief en live, là.
C'est un peu ça, je vais un peu botter en touche hein, pour être honnête. Non, le brief sera vraiment, là, prenons l'exemple encore de ta marque de chaussures, lancement. Pour moi, le split, alors ça n'engage que moi, hein, ça n'engage pas toute l'agence, hein, je n'ai pas envie que mes chefs ensuite me tapent sur les doigts. Mais voilà, il faut une grosse partie pour moi, un bon 70% auto, 30% performance me semble assez cohérent pour un lancement. Encore une fois, on parle d'une marque, par exemple, qui n'a jamais été connue. On parle pas d'un Nike qui est installé. Dans ce cas, on pourrait faire des push.
Pas de respect au client quand même.
Ah, pardon. Dans l'idée, on est vraiment plus sur. L'idée, c'est de faire connaître.
Donc, Noto, tu mets vraiment YouTube et social media.
Ah oui, pardon, j'ai pas parlé de levier, mais en auto, il faut pas négliger la télé, hein, qui est encore, oui. Encore très fort, mais. J'ai envie de te retourner la question, ça dépend qui tu veux toucher. Si on est sur une marque qui veut plutôt s'adresser aux jeunes, la télé n'est pas forcément nécessaire. Quand je dis les jeunes, ça va être peut-être les moins de 25 ans. Hein, donc on parle vraiment des très jeunes.
C'est YouTube, social et médias spécialisés. Ça peut être du multi.
On peut parler d'influence. On peut parler d'influence. On peut même parler d'OP spécifique sur Twitch, par exemple. On peut imaginer beaucoup de choses si on veut cibler certaines personnes. Je vais parler aussi un peu de...
YouTube, il est incontournable quand même. Dès qu'on YouTube parle de
vidéo... En vidéo, c'est clair que YouTube est vraiment incontournable. Mais aujourd'hui, il y a aussi la VOD qu'il ne faut pas négliger. Il y a la VOL avec des placements. La télé, elle se consomme aussi différemment chez les plus jeunes. Donc, aller les chercher peut-être sur du replay, sur des choses comme ça.
Mais la moitié, c'est quand même du social et du YouTube. Tu vas pas
mettre... Le split est assez fort en social et en avec du YouTube. Après, comme je te le disais en début de podcast, c'est aussi la chose qui se cut le plus facilement. S'il y a des choix à faire pour la marque en termes de budget, c'est le marketing qui en souffre le premier en général. Et ce qui est le plus facile à couper, c'est souvent les leviers digitaux en libre service, donc Google et le social.
D'accord que tu opposes la notoriété de la perf, les 30% de perf qui restent, finalement, c'est ce qui va permettre vraiment de générer des ventes. Donc là, on est sur de la campagne qui peut être du social ads, de la pub, de la bannière, de la pub ciblée, du SEO, SIA.
SEO, SIA. Alors oui, j'oppose les deux. C'est un grand débat. Je suis convaincu que les 70% de Noto influent aussi sur les ventes. C'est juste que c'est pas l'optimisation qu'on cherche. C'est pas l'action sur laquelle on va optimiser.
C'est ta colonne de départ.
Mais c'est ma colonne de départ qui est nécessaire.
Parce sans que sinon, ça, on a un manque d'attribution.
Alors, on pourrait faire un podcast entier, je pense, sur l'attribution. Oui. Ça serait un super sujet.
En tout cas, c'est une première brique qui est clé pour asseoir la réputation. Tout à fait. Et le 30% vient... Le combo SEO-SIA, comment tu le vois? Il faut un peu de SEO avant de faire du SIA ou tu peux commencer à faire du paid de SIA?
C'est compliqué de faire du paid SIA sans avoir un bon SEO, je pense. Alors, je suis pas expert en SEO, hein, désolé si je dis des bêtises et si les spécialistes de SEO s'arrachent les cheveux en m'écoutant. Mais pour moi, le SEO égale référencement, pour le résumer un peu grossièrement. Et donc, si on n'a pas un bon référencement et qu'on lance des campagnes search, derrière, la moindre recherche organique, peut nous faire rater des ventes. Oui. C'est dommage.
Par contre, SEO, c'est du récurrent. Il faut mettre des filles mensuelles. Oui. Donc, c'est un travail au long cours. C'est ce qu'on dit souvent.
SEA, SEO, c'est du fil rouge. C'est vraiment des choses qu'on ne va pas travailler pareil qu'un lancement, comme on le disait tout à l'heure. Tu lances une campagne SEA, c'est sur l'année, en changeant régulièrement les biddings, en changeant régulièrement les mots-clés, on est sur une toute autre approche que sur un lancement sur 3 semaines où on va vouloir asseoir pendant 3 semaines une fréquence, un reach sur cible plus conséquent.
Monsieur Schaffner, je suis assez convaincu, je trouve, par rapport aux trois autres agences que j'ai vues au pitch ce matin, je trouve que vous êtes très convaincant et merci, je suis beaucoup en train de pencher vers vous. J'irai sans doute à Colmar d'ailleurs rencontrer. Bon, je fais beaucoup d'humour.
Pas de soucis.
Un peu à 2 balles. Alors, là, c'est bien parce qu'on a vu vraiment un mapping de tout ce qui est banniering et tout ça, ça se développe moins.
C'est toujours là. Les derniers chiffres que j'ai vus sur l'année, je vous invite d'ailleurs à regarder les derniers chiffres de c'est Médiamétrie, je crois, ou c'est l'Alliance Digitale qui a sorti, en tout cas, les derniers investissements sur l'année 2022. Le display, la programmatique, le display baisse un peu ces dernières années, mais reste présent. La programmatique.
Comment tu définis display pour les auditeurs qui ne sauraient pas.
Le display, c'est toutes les pubs que vous voyez en dehors des réseaux sociaux et de Google, voilà, globalement, et de YouTube. Ça va être tout ce qui va être bannière, habillage. Je sais pas, vous allez sur auféminin.com, je dis n'importe quoi, ou sur.
C'est Criteo qui a été pionnier là-dessus. Je sais pas si tu as lu le livre de Jean-Baptiste Rudel.
Non, pas du tout.
Je te le recommande.
Avec plaisir.
Mais Criteo qui.
Qui a été premier en habillage et en display.
Enfin, pas les premiers, mais ils ont capté. Mmh. Je sais que c'est un petit peu plus difficile ces dernières années, mais. Ou même Tids sont allés sur des modèles.
Bien sûr. Et puis ils sont obligés de se diversifier avec le temps, de proposer des modèles vidéo, de l'unskippable, de l'instream, et d'essayer d'aller aussi avec ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui. C'est vrai que le display. Je dirais pas qu'il disparaît, il est toujours présent, mais un peu moins utilisé. Il est challengé par social, tout simplement, qui prend de plus en plus de budget aussi. Moi, je l'ai vu, hein, je suis arrivé en 2016 chez KR, on était 5 dans l'équipe sociale. Aujourd'hui, on est 25 acheteurs. D'accord. Enfin, ils sont 25 acheteurs.
Le social, c'est maintenant la brique number one.
C'est devenu une des briques les plus conséquentes, même si les investissements, quand on regarde, quand on prend du recul, la télé, vu que ça coûte très cher, reste quand même dans les premiers. On dit souvent à tort que la télé est morte. C'est pas le cas
non,
du tout.
Encore
une fois, c'est un média très puissant. Les GRP sont toujours très puissants, mais ça, si on veut toucher encore une fois les plus jeunes, c'est pas là qu'on ira forcément mettre nos billes. Mais quand on regarde les splits annuels globaux des dépenses médias en France, la télé reste très très forte.
Donc si on bascule dans le monde du social media,
ouais.
Donc aujourd'hui tu dirais donc Instagram reste une grosse pierre angulaire.
Oui, alors les chiffres, alors c'est là un peu la guéguerre entre les réseaux sociaux. Tout le monde se veut être le premier sur telle ou telle tranche d'âge en prenant des chiffres mensuels ou quotidiens.
Qui tiennent la dragée
aujourd'hui
haute.
TikTok rejoint les plus hauts avec une progression fulgurante en quelques années. C'est ça qui est très frappant. Mmh. Quand on voit Facebook a progressé sur une dizaine d'années, TikTok c'est en 3-4 ans ils ont fait des scores très très
forts.
Comment
t'expliques cette réussite fulgurante? Comment t'expliques ce
tout
ce,
simplement
ce,
les gens sont là, le public est là rapidement.
Ils ont capté un format qui est beaucoup plus dans l'air du temps
et qui a été repris partout. D'accord. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Insta, avec les Reels sur YouTube, avec les Shorts, ils sont tous inspirés de TikTok en se disant on est en train de passer à côté de quelque chose et on est en train de perdre de l'audience.
Plus en prise avec le public et
avec
la
les
modernité.
Plus jeunes et avec la modernité, avec la consommation actuelle. Et j'ai été aussi frappé lors de l'arrivée de TikTok Ads. Leur recrutement massif en termes de CSM, en termes de personnes pour nous accompagner côté TikTok, côté régie. Ils ont vraiment mis le paquet pour dire ok, maintenant TikTok, ils font partie des GAFA sur lesquels on peut compter.
C'est monsieur Zuckerberg, tu penses qu'il a tellement été sur les métaverses qu'il a peut-être été moins vigilant sur les Reels et les CSM?
Instagram marche toujours bien, c'est Facebook qui pour le moment
c'est
stagne.
C'est dur de tenir l'accord tout le temps, il y a ça aussi sur la durée d'être toujours
exactement,
à la pointe.
Exactement, rester aussi longtemps top 1, c'est très compliqué. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'inscrits sur Facebook, peu de gens qui y vont tous les jours. Le temps passé, ils se trouvent vraiment sur TikTok.
C'est vieillissant, c'est ce que dit
c'est
tout le monde. Mais il y a du monde.
Mais il y a toujours beaucoup de reach.
Les gens ne sacrifient pas Facebook et il est très proche aussi des entreprises locales. Souvent
oui, surtout, moi, ce que je trouve la force de Facebook, désolé, je vais faire un peu de pub pour eux, mais leur plateforme d'achat.
De Meta, tu veux dire.
De Meta, c'est vrai. La force de Meta, c'est leur plateforme d'achat qui est vraiment tellement intuitive que tu sois la boulangerie du coin. Ou une agence d'experts. Alors c'est plus un peu une agence d'experts parce qu'on passe notre temps tout le temps dessus, toutes nos journées dessus, pardon. Mais la facilité d'exécution et le fait de pouvoir mettre 50 euros comme 500 000, incroyable.
Ils ont craqué plus que Google. Le côté local ads, finalement, Facebook.
Je le trouve plus simple avancé. D'utilisation que Google.
C'est plus ergonomique.
Plus ergonomique, plus rapide d'exécution.
Ça, c'est gros. C'est moins de la moitié.
Dans le revenu, je pourrais pas te dire exactement ce qu'on présente, mais je sais que les petites entreprises, les PME, c'est aussi leur cible.
c'est conséquent.
Et moins d'accompagnement, bien sûr, mais par contre...
Donc Insta, TikTok, Facebook, tu as mentionné Twitter qui reste quand même Twitter, clé dans c'est les points médias. Alors, mais...
On le sait, hein, l'actualité de Twitter rend les choses un peu plus compliquées depuis quelques mois. On a vu beaucoup d'articles passer, les annonceurs ont un peu fui la plateforme de peur d'avoir de mauvaises retombées avec Elon Musk et de toutes ces annonces un peu controversées. On les comprend. Nous, notre point de vue côté Groupe M, KR Wavemaker, c'est de rester alerte. On ne dit pas qu'il faut absolument quitter la plateforme, on ne dit pas qu'il faut absolument y rester. Il faut plutôt garder un œil attentif dessus. Il y a des opportunités encore. Il y a des formats qui sont très brand safe. Je pense notamment aux Amplify Premium qui sont des pré-rolls que tu mets avant des contenus contenus éditeurs. Par exemple, avec Bein, Canal+, France Télé, tu peux t'associer à des moments de sport, par exemple. Là, on est très brand safe. C'est avec des campagnes plus classiques dans le feed. Je leur recommanderais un peu moins. On ne sait pas trop comment se passe la modération en ce moment, etc. Ce n'est pas forcément le meilleur moment pour aller sur Twitter, mais ils sont toujours là.
Insta, tu trouves qu'ils sont quand même plus privilégiés que Facebook au global ?
Ça dépend ce qu'on entend par privilégié.
Ça dépend des typologies de marques.
Les deux sont activés. En plus, aujourd'hui, la plateforme d'achat permet vraiment de faire des campagnes ensemble, en multi-placement, c'est-à-dire avec une optimisation... automatique entre Facebook et Insta selon les signaux.
Mais il tient la corde quand même, Insta. Hein.
Insta, là, il tient la corde parce que Facebook stagne vraiment. On voit les chiffres. Ouais. Depuis l'année dernière, voire deux ans, il n'y a plus d'augmentation significative des inscrits. C'est la première fois que ça arrive depuis
Insta
la création de Facebook.
Insta continue à craquer ce côté influence et ce côté nombre d'abonnés. Exactement. Il y a quand même une modernité.
Et quand
forte.
Tu vois les stratégies des influenceurs, ils sont en général, c'est TikTok, Insta, Snapchat pour certains, mais. On va dire c'est TikTok, Insta surtout.
Snapchat, Facebook. Donc ils ont eu un peu de ralentissement. Comment tu définis Snapchat ?
Comment je définis Snapchat ? En quelques mots, là.
Ils ont essayé, mais.
Ouais, alors pour la définir, la plateforme, je pense que tout le monde la connaît, mais oui, c'est vrai, c'est très fan de la France.
Ouais.
Mais ce qui est intéressant chez Snap, c'est vraiment leur capacité technologique de filtre, de lens. Ouais. C'est ça leur vraie force. Parce qu'en soi, les contenus, bon, c'est des contenus, je pense, qu'on retrouve malheureusement pour les réseaux, hein, à la fois en Reels, à la fois en TikTok. Mais la force vraiment de Snap, ça va être leur capacité technologique à proposer des lens, à proposer aux annonceurs de créer des lens sponsorisés. Il y a vraiment des choses intéressantes à faire en termes de j'ai envie de dire, d'innovation technologique. Même si les lens, c'est plus très nouveau aujourd'hui, ça reste, il y a des choses très intéressantes à faire et qui peuvent avoir un impact assez fort en termes de campagne.
Alors, monsieur Schaffner, je suis toujours à la tête de ma société. Ah. C'est un podcast un peu jeu de rôle. Je suis de retour. Donc, bravo, vous avez gagné la reco globale.
Merci
sur
beaucoup.
Le média. Mais en fait, j'aimerais peut-être vous donner un budget additionnel sur social media. Parce
d'accord.
Que j'aimerais trouver une agence qui va piloter vraiment tout le social de A à Z, édito, les contenus.
Pas de problème.
Je crois que vous êtes assez bon là-dessus. D'ailleurs, vous me conseillez de mettre à peu près. Je pense que je peux vous passer 200 000 euros là-dessus. Sur l'organique, vous prenez 200 et vous prenez combien sur le paid ? Il faut que je mette quoi ? 20% de la somme, vous diriez à peu près ?
Malheureusement, vous êtes adressé à la mauvaise personne pour 200K sur l'organique. Comme on le disait tout à l'heure, je ne vous recommande pas de mettre toutes vos billes dans l'organique. Ce serait dommage de concevoir des contenus qui ne soient pas ou peu vus. Donc je vous recommande plutôt un split 50-50 ou
60-40. Donc je dois moi sponsoriser tous mes posts ou il va falloir que je
sélectionne
ces posts.
Sélectionnons plutôt ensemble ce qui nous semble le plus cohérent. Tout à fait. Là je comprends que vous avez vraiment un lancement important. Sélectionnons des contenus, développons-les ensemble avec l'agence créa. D'ailleurs, si vous n'avez pas d'agence créa, je connais une très
oui,
bien
vous avez
chez
Studio
nous.
M,
on a
crois.
Studio M qui peut vous développer des contenus des très beaux contenus.
Un gros pitch.
Mais voilà, non, pour revenir à la question, en effet, je pense qu'un split 60-40 ou 50-50 me semble beaucoup plus judicieux que de tout mettre dans la créa. Je pense que si on met tout dans la créa, le film ou les assets seront magnifiques. Mais quel intérêt si on ne les voit pas.
Alors, plus sérieusement, derrière cette petite boutade de rendez-vous. Je crois que je vais
très
faire
beau
ça,
jeu de rôle. Hein.
Je crois que je vais faire ça dans les nouveaux podcasts. Je vais toujours jouer un personnage d'un client ou d'un. C'est pas mal. On sait bien, tu réagis bien en tout cas. La question qui est plus de curiosité, c'est que, déjà, tu parles de 50-50 entre le paid et l'organique,
ouais.
C'est colossal. C'est-à-dire que dans les annonceurs qu'on a eus, il y en a très peu qui mettent autant de budget.
D'accord.
Donc peut-être que c'est, j'imagine, des grands annonceurs qui vont quand même sur ce style de masse.
Après, pour être honnête, j'ai rarement le split entre les deux. Hein. D'accord. On connaît très peu, on connaît assez, ce qui est normal.
Oui, parce que toi, tu gères
assez
le paid.
Peu, on gère le paid, donc on connaît assez peu le budget octroyé.
Mais par contre, tu dois être super organisé parce que tu dois avoir tout le calendrier édito, tous les postes. Ouais. C'est là où ça se complique. Parce
bah,
que
c'est là où il faut vraiment bien.
Le main dans la main, le fameux.
Exactement, bien développer une relation pérenne avec l'agence créa, avec l'agence ou alors avec les clients lorsque l'édito est géré côté client. Hein. Mais avoir dès le début, lors de la prise de la prise de compte, lors de la prise de brief, se dire OK, comment on va fonctionner ? Est-ce qu'on se partage, je sais pas, via un Google Doc partagé votre ligne édito ?
Oui,
est-ce qu'on s'envoie, comment on s'envoie les postes ?
Le process,
est-ce que vous
comme
faites...
on dit.
C'est ça, un process clair pour moi, c'est la clé pour une collaboration réussie.
Surtout sur du social.
Parce que ça va très vite.
Récurrence.
Il y a de la récurrence, il faut aller vite. Après, nous, en social, vraiment à l'inverse du search, on n'est pas très très fan en média du fil rouge. On trouve que c'est dommage de, entre guillemets, dilapider du budget sur très longtemps quand on peut avoir sur quelques semaines un impact beaucoup plus fort et avoir un impact sur reach, une couverture sur reach pardon, beaucoup plus forte que si on étale, je sais pas, sur 6 mois le même budget.
D'accord.
On peut le faire, mais on n'est plus sur de l'approche performance et du coup pas sur une logique de reach sur cible. C'est deux choses bien distinctes. C'est pour ça qu'il faut, faut encore une fois définir ce qu'on veut dès le début, en amont, avant même de concevoir les contenus.
En termes de call to action, parce que ça souvent aussi,
ouais,
c'est pas toujours le plus simple. Comment tu vois cette partie, toi, en tant que stratégiste ? Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu pas fumeux, mais bon, OK, tu mets un peu de budget sur TikTok.
Ouais.
OK, tu fais un peu de visibilité, mais est-ce que tu as la vente à la clé ? C'est quoi tes clés pour vraiment être au bout de la chaîne et avoir le nombre de leads,
ouais,
le nombre de ventes
Comme je vous disais, pour moi, la clé, ça va être d'identifier les ciblages les plus chauds sans pour autant négliger des ciblages plus larges et un peu plus froids. Je vais encore reparler de social media, mais ça parlera aussi à ceux qui achètent en programmatique ou en search. On va mettre en opposition les bas CRM.
Comment tu définis ça, ces ciblages chauds, ciblages froids? C'est pas si évident.
Ah, après, ça, c'est des choses qui viennent soit avec l'expérience, soit avec. C'est notre métier, tout simplement, de définir, de savoir,
d'accord,
identifier quels sont les prospects chauds, les prospects froids.
Parce que là, il y a une histoire de données, parce que souvent.
Une histoire de données.
Il y a une histoire d'un moment, l'emailing, par exemple, parfois.
Ouais.
Peut paraître plus pertinent parce,
ouais,
qu'au moins tu
c'est
as
vrai
un contact direct,
c'est
avec
vrai
une personne, alors qu'un post TikTok est ultra vu. Ok,
ouais,
est-ce que
fait
ce sont des gens vraiment qualifiés?
Exactement.
Ils sont sur ma base, tu vois ce que je veux dire?
Mais l'idée, c'est que avec les technologies actuelles, par exemple, je prends l'exemple du post TikTok. Mmh. Imaginons, on a fait une campagne à la vidéo vue, on a mis un petit budget, mais on a fait plusieurs millions de vues en paid.
Mmh.
Ces données de vues, je peux les réutiliser et aller chercher ce qui, pour moi, est les personnes les plus enclines à acheter. Ça va être les personnes qui ont vu la vidéo, qui ont consommé la vidéo, qui sont engagées. On va parler d'engagement. Et je vais aller chercher, en fait, un retargeting, je ne sais pas, des personnes qui ont continué la vidéo au-delà des 50%. Et du coup, me concentrer peut-être sur ce ciblage pour aller chercher du fin de funnel et pour aller chercher de la vente.
D'accord.
Et comme ça, je sais que ces personnes, j'émets une hypothèse, je me dis, si ces personnes, elles ont regardé autant le contenu, si elles sont allées jusqu'au bout de la vidéo, c'est que potentiellement, elles s'intéressent à ma marque et je peux aller les chercher, aller essayer de les cueillir et elles sont peut-être prêtes à acheter. Et ce qui est très fort aussi sur les réseaux sociaux, et il me semble que c'est le cas aussi en search, c'est les lookalikes. C'est la capacité à créer des ciblages qui sont des semblables, des lookalikes, de ta base cible. Je reprends l'exemple de mes retargeting vidéo. Je peux demander à un Meta, à un TikTok, à un Snapchat, à peu près à toutes les régies, de me créer une base de données, une base d'utilisateurs qui est la plus proche de ce que j'ai en retargeting et du coup de pouvoir l'exploiter dans des futures campagnes. Ça, ça marche d'habitude, d'expérience, ça marche plutôt bien.
Bon, pour les auditeurs, je pense que là,
ils
ont vraiment des petits tips et j'espère qu'ils auront pris de belles notes.
Mais pour plus de tips, n'hésitez pas à contacter Carrie Remaker, bien sûr.
Bien sûr, évidemment. J'ai une petite question quand même sur la programmatique. Comment tu l'as définie pour les auditeurs?
Alors, la programmatique, je la définis de la même manière que social media, c'est des plateformes d'achat à l'enchère. On va mettre des enchères.
Trading desk.
On va mettre des enchères à la fois sur des emplacements, sur des cibles, pour essayer d'apparaître et pour délivrer
visible,
du budget, être visible sur des emplacements. La programmatique, je n'ai pas pratiqué, je connais le levier, mais c'est vrai que je n'ai pas mis les mains dedans. Mais on a tendance beaucoup à dire que le social media et la programmatique sont sensiblement la même chose, des plateformes d'achat à l'enchère sur lesquelles on va bider. Alors, bider en anglais,
oui,
hein, pas bider,
bidding,
faire un flop,
real-time
mais
bidding.
Exactement, du real-time bidding et sur lesquels on va optimiser au fur et à mesure de la campagne,
okay,
activer des ciblages, activer des formats et essayer d'avoir les meilleures perfs.
deux petites questions de curiosité personnelle. Le social media est pas toujours facile pour les annonceurs parce que il faut être un peu en compréhension très proche des marques et finalement comme si on était intégré chez la marque et en même temps ils peuvent l'externaliser. Comment tu vois ce côté interne externe? Bon, ça j'imagine que tu es dans le cas avec plein de clients.
En fait,
est-ce qu'il y a une nouvelle manière de collaborer tout simplement avec les agences qui doivent devenir presque en marque blanche et presque des nouvelles équipes en fait?
Il y a beaucoup de choses différentes. Moi ce que je vois, c'est que les annonceurs qui peuvent se permettre d'avoir des équipes dédiées le font, mais on parle de ressources quand même assez conséquentes, parce que imaginez une personne qui gère toutes les campagnes médias au sein d'un annonceur, c'est quand même beaucoup de charges. Si l'annonceur est un tant soit peu costaud, il y a beaucoup de campagnes à gérer, une seule personne c'est trop peu. Donc dans ces cas là on passe par une agence et on a un coordinateur média côté client. Mais de plus en plus, comme je te le disais, la perf est internalisée pour avoir plus de réactivité. Du coup, ça nécessite des ressources côté annonceur. Et moi, ce que je pense, c'est que nos métiers d'agence, en tout cas en achat média,
ils amènent une expertise.
Ils amènent une expertise et c'est ce qu'on me dit depuis que je suis arrivé, mais ils sont menés à évoluer peut-être plus vers du consulting, plus vers de l'accompagnement. Peut-être qu'à terme, ce seront des annonceurs qui auront des équipes dédiées, mais qui auront besoin d'une
régie,
vraie expertise.
Même avec un modèle, pourquoi pas, régie,
d'accompagnement,
avec les équipes,
en fait.
Workshop.
On est plus sur du consulting, finalement, que sur de l'achat directement, où ce ne serait pas forcément les équipes des agences qui opéreraient les campagnes, mais les campagnes seraient opérées chez les annonceurs, pardon, mais avec des agences qui seraient là pour les accompagner, pour les guider, pour leur donner des conseils, pour faire des audits, workshop, des workshops, les nourrir, en fait.
C'est une
vision qu'on a chez KR, qu'on essaie de développer.
Une relation qui va évoluer.
Parce que le métier,
horizontal.
Il est en constante évolution et on voit bien que ces leviers-là, ils sont en libre accès. Surtout les réseaux sociaux, tout le monde demain, si vous avez une entreprise, peut faire de la pub sur ces réseaux. Après, nous, on a une expertise que forcément tout le monde n'a pas. C'est notre plus-value. On a une expertise, on a des relations aussi avec les régies, on l'a déjà dit, ce qui est vraiment notre valeur ajoutée. Mais on a des approches qui sont de plus en plus diversifiées avec nos clients et surtout, aujourd'hui, on ne parle pas que d'un réseau social, on ne parle pas que de Meta, et on a aussi une pluralité de leviers qui fait que nos accompagnements, ils vont être vraiment différents en fonction de ce qu'on va gérer. Il y a des marques sur lesquelles, comme je te disais, on n'est que sur du branding, d'autres on fait plus de perf, mais c'est rare qu'on ait des marques où on fait uniquement qu'on fasse uniquement de la perf.
En
par
cas,
exemple,
on sent les deux plus-values qui vont être la strat et le pilotage.
Pour moi, c'est vraiment ça la force d'une agence, c'est d'être
plus strat,
des experts.
Pilotage, tu dirais. L'exec, tu dirais, ou les deux.
Ah, c'est les deux, c'est vraiment. Aujourd'hui, on est sur les deux. À terme, on sera peut-être plus sur de la strat que sur du pilotage. Mais l'avenir nous le dira, hein. Si ça se trouve, je me plante totalement et les annonceurs vont dire en fait, internaliser pour nous, ça vaut pas le coup, il vaut mieux qu'on sous-traite. Je ne sais pas, j'ai pas la
ça
clé là-dessus.
Plein de choses,
exactement.
Du contexte, de, etc.
Tout
mais
à fait.
Tu as bien résumé les enjeux. La toute dernière question, enfin, on arrive dans la fin là, c'est la question que je pose à tous les invités. Alors là, je sors vraiment de l'aspect business du podcast, c'est l'aspect plus goût personnel en matière de création.
Ouais.
Ça peut être film, série, jeux vidéo, BD, enfin voilà, des créations récentes ou de tout temps qui t'ont marqué.
Ok. Moi, je l'ai placé pendant le podcast, mais je suis un passionné de jeux vidéo, vraiment. C'est quelque chose
gamer.
Que je fais, je suis un gamer, un hardcore gamer, je joue tous les jours.
Quel jeu alors?
Je joue un peu à tout. On est un groupe de potes.
Oui,
moi je suis sur PC. Vraiment, je suis un joueur PC convaincu. Et on a un Discord avec des copains, on joue quasi tous les jours, que ce soit du Minecraft, que ce soit du Fall Guys, du Rocket League. Donc là, je parle de grosses licences. Après, je vais jouer à d'autres jeux indépendants. Mais globalement, j'aime aussi, pour parler de création, hein, les films, la musique, séries télé. Je suis un fan de hip-hop. J'aime beaucoup aller en concert. Voilà, il y a des choses. Alors, très éclectique, je sais
pas.
Pas
Chira, non.
On me l'a déjà dit.
T'as pas une guitare.
Et je suis pas roux.
T'as fait ton duo avec Vianney, non?
C'est ça. C'était moi, vos meilleurs connus. Non, mais voilà, j'aime. Principalement, on va dire hip-hop, jeux vidéo, ça me définit plutôt bien.
D'accord, super intéressant. Et puis la toute fin, film, tu vas un peu au cinoche ou pas?
Film, ça fait un moment que j'étais pas, mais là je vais craquer pour aller voir le film Super Mario, bien sûr, qui me fait très envie, qui relie tout. Et j'ai vu les animations, vu les retours. Je sais pas si tu l'as vu toi.
Non, j'ai pas vu ça.
Mais j'ai bien envie d'aller le voir.
Du plombier dans le moustachu.
Bah ouais. En plus,
ça a marqué la jeunesse de beaucoup.
Pour le coup, ça a l'air d'être bien adapté. Hein.
Ça a l'air d'être un sacré blockbuster celui-là.
Ouais.
Conseil, la toute dernière question que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer dans le digital performance strategy.
Allez, pour les personnes qui souhaitent se lancer dans nos métiers, je leur souhaite déjà d'être passionnés. Je pense que c'est important. Souvent, on dit que bah, on sauve pas des vies, oui, en effet, on va peut-être arrêter de répéter, on fait de la publicité, mais c'est bien de s'intéresser à ce qu'on fait. Je dis pas qu'il faut, dans son temps libre, lire que des articles qui parlent de marketing, etc., mais je trouve que c'est toujours mieux d'avoir un intérêt pour ce qu'on fait. Et surtout, je pense qu'il faut être très consciencieux dans nos métiers. Mmh. C'est des métiers qui demandent de la rigueur. On dirait pas d'un point de vue extérieur parfois. On se dit qu'on clique sur des boutons et qu'on est là un peu comme ça. Non, c'est des métiers qui demandent d'être toujours vigilant, oui, de
une
faire...
certaine finesse, on l'a senti dans tout ce que tu as dit.
Une multitâche aussi précis. Constante, surtout avec la pluralité des leviers qu'on a aujourd'hui. Voilà, être bien organisé, c'est très important. En avoir envie. Et puis, après, voilà, se laisser un peu porter aussi par le marché. Il y a des très belles choses à voir, des très bonnes relations. L'innovation, tu as raison, je l'oublie, mais l'innovation, c'est super intéressant de voir aujourd'hui. On n'avait pas parlé d'IA de tout le podcast, même. On aurait pu parler d'IA aussi.
En deux mots, tu crois à l'IA et au métaverse?
Alors, le métaverse, j'y crois un peu moins que l'IA. Je pense que le soufflet est un peu retombé, même si le concept de métaverse est très intéressant. En termes de médias, en termes de campagne média, pour le moment, on n'y est pas du tout. Il vaut mieux aller dans le jeu vidéo aujourd'hui où il y a des choses à faire, que ce soit en sponsoring ou en campagne normale.
D'ailleurs, le métavers, c'est un genre de jeu vidéo.
Pour moi, oui, tout à fait.
Okay. Et l'IA, alors ?
Et l'IA, par contre, je trouve ça passionnant. Alors, aujourd'hui, on est vraiment au balbutiement. J'ai essayé pas mal d'IA différentes, dont ChatGPT. Je trouve ça vraiment, vraiment fascinant, impressionnant.
Même si ça manque un petit peu de point de vue,
ça dépend comment on l'oriente en fait. Je trouve que vraiment, selon le prompt que tu vas mettre et la façon dont tu vas le diriger, il peut te sortir des choses vraiment intéressantes. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'y fier à 100%. Je pense que c'est un facilitateur, dans le sens où c'est une aide.
C'est un outil pour toi qui va permettre de gagner du temps sur des choses. Maintenant, on est d'accord que ça ne se substitue
pas
au talent humain.
Pour moi, ça ne substituera pas un cerveau humain et un talent humain, pas encore. Mais c'est ça qui fait peur aussi, c'est qu'on est au début. On est qu'au début.
L'ordinateur HAL.
C'est ça. Est-ce que c'est ça qu'on va avoir bientôt à voir? Mais non. Par contre, je trouve ça passionnant et je vois beaucoup de threads sur Twitter ou d'articles qui parlent de sujets, qui parlent d'AI audio, qui parlent d'AI les AI photos.
C'est un peu perçu comme une menace, hein, d'une certaine manière.
On en a peur.
Ouais, les gens.
On en a peur, mais en même temps, il faut peut-être. Je pense que c'est un juste milieu. Mais récemment, il y a beaucoup de personnes qui bossent dans les IA, dont Elon Musk, qui ont signé une tribune pour dire attention, il faut peut-être faire attention, il faut peut-être réduire un peu les recherches sur les IA et légiférer. Je pense qu'ils ont raison. Je pense que c'est facile à dire quand c'est toi qui as lancé tout ça, de revenir dessus et dire bah il faut faire gaffe maintenant qu'on l'a lancé.
Après, je trouve la difficulté, c'est que l'IA, ça recouvre énormément de choses. Je veux dire, il y a du machine learning, il y a de gagner du temps sur des algorithmes pour faire du matching.
Moi, je pense qu'il serait.
Il y a quand même, c'est tout le problème de ces buzzwords. Ouais. Où il y a aussi derrière plein de bon sens.
Tu l'as dit,
buzzwords. C'est du bon sens aussi pour gagner du temps en productivité.
Là où il va falloir aller vite, c'est trouver des solutions pour repérer facilement ce qui a été généré par un IA et ce qui n'a pas été généré par un IA. Pour moi, c'est ça la vraie problématique, c'est qu'avec aujourd'hui DALL-E et Midjourney, donc pour les auditeurs qui sont des IA qui créent des images en fonction de ce que vous indiquez comme prompt. On a eu déjà des premiers exemples de fake news qui circulent avec le pape notamment, avec des images de Trump. Oui, on peut faire. Je veux dire, aujourd'hui, on arrive encore à faire la différence.
Pour
moi, c'est les premières alertes, tu vois.
Ça, c'est l'ère des réseaux sociaux qui nous fait parler de ce truc-là.
C'est vrai,
tu
as raison aussi.
En vrai,
peut-être qu'on en parle trop.
Qu'est-ce que ça amène, franchement? Oui, aussi une petite créa Photoshop qui aurait été pu faite par n'importe qui.
Tout à fait. Mais ça montre.
Faire une espèce de débat moral de oh là là, regardez ce qui se passe.
Je trouve que c'est important d'en parler pour déjà se rendre compte que demain, peut-être qu'il y aura vraiment du
mal. On a
vraiment
des réseaux sociaux, je trouve.
C'est vrai,
ça montre surtout le.
Tu marques un point, tout à fait.
C'est plutôt le tuyau qui est questionnable de ce qui se remplit, parce que finalement, il n'y a pas que l'IA. Il peut y avoir des trucs controversés, il peut y avoir des trucs moraux.
Oui, clairement. Clairement.
Donc, mais tu as raison qu'on en a beaucoup parlé.
À surveiller, en tout cas. Pour moi, c'est vraiment à surveiller et pourquoi pas intégrer dans certains de vos façons de travailler. Les IA sont là aussi pour nous faciliter la tâche, tu l'as dit. Moi, je pense qu'encore une fois, que ça ne se substitue pas à ce qu'on fait, mais que ça peut vraiment nous faire gagner du temps et nous aider.
D'accord, sur un plan média, peut-être d'acquisition.
Oh là, non, je n'irai pas jusque-là.
Merci beaucoup, Nicolas. C'était un grand plaisir de t'avoir pour ce podcast de l'Entertainment Lab.
Merci beaucoup.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.